Jean-Antoine Mercier.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. La proposition de loi sur la résidence alternée des enfants de parents séparés examinée ce soir à l'Assemblée, elle rencontre de très fortes réserves, que ce soit à gauche ou à droite, suivie du débat et des enjeux avec Cécile de Carvaz-Doué dans un instant. Les salariés des centres de ressources humaines de La Poste appelés à faire grève. Leur syndicat redoute que la future mutualisation des services provoque des fermetures de sites et aussi des suppressions d'emplois. C'est ce que nous dira Anne-Laure Chouin. L'envolée du Bitcoin se poursuit aujourd'hui à plus de 11 000 dollars. La plus populaire des crypto-monnaies commence à intéresser les gros investisseurs, ce qui ne laisse pas d'inquiéter les milieux financiers. Explication de Catherine Pétillon. Après le nouveau tir de missile nord-coréen, les États-Unis appellent tous les pays à couper leurs relations diplomatiques et commerciales avec Pyongyang. La Chine rejette ce matin l'idée de couper les approvisionnements en pétrole. Correspondance à Pékin de Dominique André. La mise en place d'une force d'urgence pour démanteler les réseaux de passeurs en Libye décidée hier en marge du sommet Union africaine, Union européenne, commentaire de Marie-Pierre Véraud. Et puis la rediffusion sur Twitter par le président américain Donald Trump de vidéos anti-musulmanes tourne à l'affrontement diplomatique entre les États-Unis et leur plus proche allié, le Royaume-Uni. Analyse d'Antoine Maret dans cette édition, l'invité de la séquence interview, Patrick Stefanini, auteur de La Déflagration, ancien directeur de campagne de François Fillon dans la dernière partie de La Grande Table, Olivier Gesbert.
Le do-it-yourself, ou le faites-le vous-même, ou comment la figure de l'artiste, celle du hacker, est peut-être en train d'inspirer celle du travailleur à l'ère numérique, à l'ère Macron. On va poser la question à notre invité, le sociologue de l'information, Patrice Flichy, qui est avec nous à l'occasion d'apparition de son nouvel essai, Les Nouvelles Frontières du Travail à l'ère numérique, qui paraît au Seuil.
C'est donc un texte qui marque une évolution de principe du droit de la famille, proposition de loi sur la résidence alternée qui va être examinée en principe ce soir à l'Assemblée nationale. Dernière mouture du texte qui a été pas mal remaniée, qui précise qu'en cas de séparation des parents, donc la résidence de l'enfant est fixée au domicile de chacun des parents selon des modalités de fréquence et de durée qui sont déterminées par accord entre les parents ou bien, s'il n'y a pas d'accord, par le juge. Cécile de Carvaz-Doué, bonjour.
Bonjour.
Alors je l'ai dit, il y a beaucoup d'opposition à ce texte, bien que, il faut bien commencer par là, l'évolution qui est proposée est assez mince sur le plan juridique.
Oui, et ce qui fait polémique, c'est surtout la suite du texte que vous n'avez pas cité, Antoine. La proposition, finalement, dit ceci. La résidence de l'enfant est fixée au domicile de chacun des parents et, à titre exceptionnel, le juge peut la fixer au domicile de l'un des parents. Ce qui revient à dire que la résidence alternée deviendrait la règle en cas de séparation. Or, aujourd'hui, dans le Code civil, et depuis le 4 mars 2002, les parents qui se séparent, peuvent déjà choisir soit la résidence alternée, soit la résidence chez un des parents. D'après les chiffres du ministère de la Justice, il faut savoir que dans 80% des cas, les parents qui arrivent devant le juge se sont finalement déjà mis d'accord. Et les trois quarts d'entre eux choisissent la résidence simple chez la mère. La résidence alternée, elle, n'est demandée que par moins d'un couple sur cinq. Alors pourquoi, vous allez me dire? Parce que d'abord, la résidence alternée, ça coûte très cher, il faut tout en double. Ensuite, il faut une proximité géographique, près de son ex, et surtout une grande disponibilité. Et puis bien sûr, il y a l'évidence, la résidence alternée ne peut fonctionner que si les deux parents ne sont plus en conflit. Alors vouloir en faire la norme peut sembler irréaliste.
Oui, cela dit, c'est quand même l'égalité homme-femme qui est derrière. La proposition de loi avait rencontré en commission des réserves, que ce soit à droite ou à gauche, les associations féministes qui signent par exemple hier une tribune contre cette garde alternée automatisée. Quels sont finalement les principaux arguments de ceux qui sont contre ce texte?
Mais d'abord, il y a l'idée que le rapporteur Philippe Latombe, lui-même divorcé et qui a eu du mal à obtenir la résidence alternée de ses filles, voudrait faire une loi de circonstance inspirée de son cas personnel ou d'une minorité de pères. Mais au-delà de ça, ce qui coince, c'est surtout le flou du texte et la confusion qu'il risque de mettre en place entre résidence et garde alternée. C'est pas la même chose. Dans le texte, il est question de résidence, c'est-à-dire de domiciliation administrative, mais rien n'est précisé sur les modalités ni même sur la fréquence de la prise en charge des enfants. Ainsi, avec cette proposition, les deux parents pourraient toucher des aides de la CAF ou obtenir des dégrèvements d'impôts, voire même mettre fin à la pension alimentaire, même si l'un des deux parents continue à avoir la garde effective des enfants la plupart du temps. À cela s'ajoute l'absence de mention de cas de violence, qui devrait pourtant interdire la résidence alternée. Vous l'entendez, avec ce texte, on n'est finalement pas vraiment dans l'égalité homme-femme et bien trop loin de l'intérêt supérieur de l'enfant. Alors même que les psychiatres et de nombreux parents s'accordent à le dire, avant 6 ans, la résidence alternée avec tous les déménagements aménagement incessant que ça suppose est nuisible à l'équilibre des enfants. Or aujourd'hui, les trois quarts des enfants en résidence alternée ont, comme par hasard, moins de 10 ans.
Merci beaucoup Cécile de Kervazoué. Nous doute que l'on reparlera de ce texte donc qui pourrait être voté, en tout cas examiné tout à l'heure par les députés. Interview à l'Obs du ministre de la Transition énergétique Nicolas Hulot qui souhaite que les cantines scolaires proposent prochainement aux enfants un menu végétarien un jour par semaine. Monsieur Hulot soutient par ailleurs que l'animal a une conscience et il souhaite conduire bientôt une grande réflexion sur la condition animale avec le ministre de l'Agriculture. Quand les ressources humaines s'inquiètent aussi d'éventuelles suppressions de postes dans leurs services, les salariés des centres de ressources humaines de La Poste, ils sont environ 2000, sont appelés à faire grève aujourd'hui. Selon leur syndicat, il y a des conditions de travail qui se dégradent continuellement et ils verront de surcroît leurs services mutualisés l'an prochain alors qu'ils étaient jusqu'à présent divisés par métier. Ils craignent des fermetures de sites et aussi bien sûr des suppressions d'emplois, leur choix. Bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors le conflit ne concerne, on vient de voir, qu'un nombre assez limité de postes, de personnes, de salariés de La Poste, mais il est révélateur de ces mutations au sein de l'entreprise publique et aussi de l'activité postale et bancaire en général.
Oui, cela fait plusieurs années déjà que le groupe La Poste, société anonyme à capitaux publics, est engagé dans une restructuration d'ampleur parce que son cœur de métier, la distribution de courriers, décline et qu'elle doit se diversifier. Ce qui se traduit du point de vue des salariés, en tout cas, par un rognement continu des missions de service public que La Poste doit pourtant continuer d'assurer. Distribution du courrier et de la presse et accueil au guichet notamment. Une injonction qui se conjugue mal avec une autre injonction, celle de la Cour des comptes dans un rapport publié l'année dernière qui préconise d'accélérer encore la transformation, de réduire encore les effectifs et de brider encore les rémunérations. Des objectifs que les syndicats qui pointent les risques psychosociaux et un nombre élevé de suicides dans l'entreprise avaient réussi à mettre en pause avant que les projets stratégiques ne reprennent. Alors, concernant les centres de ressources humaines de La Poste, ils avaient été métierisés, comme on dit en 2011, c'est-à-dire dégroupés selon les secteurs. Et puis la direction a changé d'avis et veut revenir à leur fonctionnement initial en prévoyant donc de les remutualiser, mais en leur promettant aussi de nouveaux logiciels qui devraient leur permettre une bien meilleure productivité. Et pour les syndicats, les choses sont claires, ce sera l'occasion de se séparer d'un bon nombre de salariés. Dans les faits, pourtant, et du simple point de vue des chiffres, le groupe dégage des bénéfices grâce à la hausse du prix du timbre, notamment grâce aussi au fait que les volumes de courriers et colis distribués ne se sont pas effondrés autant que prévu, grâce aussi aux 1 milliard d'euros de CICE reçus. Un CICE censé être accordé en échange d'un plan de formation ou d'embauche. Depuis 2008, le groupe a supprimé 50 000 emplois.
Anne Lorchois, merci beaucoup. Il valait lundi 9 000 dollars, quand nous en parlions d'ailleurs dans cette édition. Il est aujourd'hui à 11 000 et il pourrait atteindre les 40 000 dollars avant la fin de l'an prochain. C'est un financier qui avait prédit l'envolée de ce marché qui le dit. Le Bitcoin continue de fasciner et maintenant d'inquiéter, la plus populaire des crypto-monnaies disponibles à l'achat et à la vente sur des plateformes en ligne. Commence donc à intéresser les gros investisseurs qui sont à la recherche d'un profit important et immédiat. Catherine Pétillon, bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce qu'il y a des raisons et lesquelles, pour lesquelles il faudrait s'inquiéter de cette envolée?
Alors, la première question, c'est est-ce que l'emballement va continuer? Si le cours du Bitcoin s'envole, c'est parce que, comme toutes les autres crypto-monnaies, il n'a pas de cours légal encadré. Il dépend totalement de l'offre et de la demande, d'où son caractère ultra-volatile. N'importe qui peut, sur Internet, convertir des euros en Bitcoin et réciproquement. Tant et si bien qu'aujourd'hui, le Bitcoin intéresse de plus en plus d'acteurs qui l'utilisent davantage comme un actif dans lequel investir que comme une monnaie. Bitcoin naît, il faut le rappeler, d'une inspiration libertaire en réponse précisément à la crise financière et au pouvoir des banques. L'objectif était d'établir la confiance via une transaction sécurisée, mais sans intermédiaire, autrement dit sans banque. Et cela grâce à une nouvelle technologie, la blockchain. L'invention est majeure et c'est l'un des ingrédients du cocktail de raisons qui explique l'intérêt aujourd'hui pour le Bitcoin. Ajoutez à cela d'un côté la légitimation que représente pour certains leur reconnaissance par des bourses et de l'autre des particuliers, ignorant souvent à peu près tout du fonctionnement du Bitcoin, mais qui optent pour un nouvel objet de spéculation, souvent d'ailleurs encouragé à le faire par des nouvelles structures qui se créent actuellement pour les inviter à le faire. Une effervescence d'autant plus importante que les bitcoins sont été mis en nombre limité, d'où l'envolée des cours. Faut-il s'en inquiéter? Eh bien, comme toutes les bulles, celle-ci est amenée à éclater. Quand et comment? Personne ne peut prédire ni la durée ni le niveau de cette vague spéculative. Les conséquences éventuelles concerneront à coup sûr ceux qui auront investi. Quant à savoir s'il y a un risque plus systémique, notamment sur le système financier, eh bien, cela dépendra d'éventuels effets domino et donc des acteurs institutionnels et financiers qui auront investi. Comment vont se comporter les banques? C'est donc cela qu'il va falloir suivre de près.
Merci beaucoup Catherine Pétillon. On salue l'invité de la dernière partie de la Grande Table, Patrice Flichy. Bonjour.
Bonjour.
Sociologue. Bon, vous comprenez quelque chose à cette envolée du Bitcoin ces derniers jours, ces dernières semaines ?
Alors, je ne suis pas le mieux placé pour vous parler de la blockchain et de ce genre de dispositif. Par contre, je crois que ce qu'on peut dire, c'est que le Bitcoin est un bon exemple de la façon dont le numérique transforme nos sociétés. Non seulement le Bitcoin essaye de contourner finalement les acteurs dominants de l'activité financière, en l'occurrence les banques, comme ça a été dit, mais aussi le Bitcoin finalement renvoie à quelque chose qui est encore plus fondamental pour la monnaie, qui est la régulation par l'État. La monnaie, par des définitions, est quelque chose qui est conçu, géré
par l'État. Parce que là, il n'y a pas d'État, c'est ça la nouveauté.
Il n'y a pas d'État, et on trouve effectivement cette tendance libertaire qui est au cœur de toutes les innovations du numérique.
Voilà, et on parle avec vous notamment des questions du travail à l'ère numérique avec vous, Patrice Flichy, dans la dernière partie de la Grande Table. On en vient à ce sommet Europe-Afrique hier, qui a débouché sur une série de mesures d'urgence pour tenter de mettre un terme à l'esclavage de migrants en Libye notamment, évacuation d'urgence de ces Africains qui désirant quitter la Libye, une task force, comme on dit, policière et de renseignement, mais aussi une commission d'enquête, mais encore une communication pour dissuader les jeunes de tenter l'exode. Voilà ce qui était prévu dans ce plan annoncé hier par Emmanuel Macron à l'issue d'une réunion d'urgence de 9 pays sur le sujet. Marie-Pierre Vérot, bonjour.
Bonjour.
Bon, est-ce que c'est un plan qui est adapté ? Est-ce que c'est un plan qui est réaliste ?
Déjà, il y a un plan qui, pour une fois, va au-delà du simple volet répression et fermeture. Nous avons déjà pointé ici l'étrange schizophrénie des États européens qui ont organisé la fermeture de leurs frontières en Méditerranée, pour ne pas dire sous-traiter leurs frontières extérieures, ici en Libye, mais n'oublions pas la Turquie sur le flanc oriental, des États européens qui ont financé le renvoi de migrants vers la Libye par le biais des gardes-côtes en détournant le regard. Aujourd'hui, il y a donc au moins une dénonciation publique de l'enfer libyen, un début de réponse coordonnée aussi, mais beaucoup d'incertitudes demeurent. Le plan d'action prévoit ainsi toujours une coordination avec la Libye, or c'est toujours un État failli et les exactions de ces gardes-côtes et d'autres responsables à l'encontre des migrants ont été maintes fois documentées. La commission d'enquête sur le trafic, c'est bien, mais jusqu'où pourra-t-elle aller ? Les filières ne commencent pas en Libye. On sait que des responsables maliens, que des Égyptiens notamment, sont impliqués dans le trafic. Remontera-t-on jusqu'à eux ? Évacuer des migrants en urgence de Libye, dit-on également, mais combien et comment, cela reste à préciser. Le HCR estime que 17 000 migrants sont actuellement détenus dans une trentaine de centres gouvernementaux, mais plusieurs dizaines de milliers d'autres sont aux mains de groupes armés qui se partagent le lucratif marché de la migration. On ignore combien sont cachés dans des containers dans le désert libyen, dans d'autres centres secrets où, on le sait par les récits des survivants, torture, exaction, extorsion, viol, travail forcé, etc. sont monnaie courante. Comment par ailleurs retenir en amont les candidats à l'exil en passant des accords comme l'Union européenne souhaite le faire avec le Soudan, voire avec l'Érythrée. Et puis quel financement ? Les sommes débloquées par exemple dans le Fonds européen pour l'Afrique sont loin des promesses. Il faudra donc tenir parole et bourses déliées. Finalement, il manque sans doute un volet à ce plan pour être efficace. C'est Angela Merkel, une fois de plus réaliste mais isolée, qui l'a avancé à Abidjan, aux côtés du secrétaire général des Nations Unies. Des canaux légaux de migration régulières et ordonnées. Il faudrait pour cela engager enfin une politique commune de l'asile en Europe. Pour généreux que cela soit, accueillir quelques centaines ou quelques milliers de personnes vulnérables ne saurait répondre ni à l'urgence ni à la nature du défi migratoire.
Marie-Pierre Vérot, merci beaucoup. Nous saluons l'invité de la séquence interview de cette édition, Patrick Stefanini. Bonjour.
Bonjour.
On va parler évidemment de votre livre tout à l'heure, mais un mot d'abord sur ce plan par rapport à l'urgence que constituent ces trafics d'esclaves, enfin de personnes réduites en esclavage en Afrique et notamment en Libye.
L'Europe ne maîtrisera l'immigration auquel elle doit faire face que si elle est capable de négocier avec les pays d'origine. Et cette problématique est d'une actualité particulièrement brûlante en Afrique.
La raison.
Et de ce point de vue, le voyage du président de la République s'inscrit dans une bonne perspective.
Et la responsabilité éventuellement de cette intervention française en Libye sous la présidence Sarkozy ?
C'est jamais très utile de passer des heures et des heures à discuter du passé. Ce qui est vrai, c'est que la Libye, avant la chute du régime du colonel Kadhafi, jouait un petit peu le rôle de garde-barrière à l'égard de l'immigration vis-à-vis de l'Europe. Et donc l'Europe s'est trouvée confrontée d'un seul coup à des phénomènes migratoires d'une ampleur considérable à travers la Méditerranée. Et il faut reprendre un travail qui avait été entrepris avec Charles Pasqua dans les années 86-88, qui consiste à dialoguer avec les pays d'origine. Ce travail, par exemple, a été fait par l'Espagne avec le Sénégal il y a une dizaine d'années. Et l'Espagne avait réussi à maîtriser l'immigration en provenance de ce pays.
Patrick Stefanini, merci beaucoup. On reparle donc tout à l'heure de votre livre sur la campagne de François Fillon dans le secret d'une élection impossible, déflagration publiée chez Robert Laffont. Avant une étape diplomatique périlleuse en Birmanie, cette étape birmane, le pape François est aujourd'hui au Bangladesh voisin. C'est une terre d'exode de centaines de milliers de réfugiés Rohingyas dont le sort domine son voyage donc en Asie. La rediffusion sur Twitter par le président américain Donald Trump lui-même de vidéos anti-musulmanes a tourné hier à l'affrontement diplomatique assez rare entre les États-Unis et leur plus proche allié, le Royaume-Uni. La première ministre britannique Theresa May a en effet jugé que ces retweets de vidéos émanant d'un groupe d'extrême droite britannique s'appelle Britain First étaient une erreur. Et Donald Trump qui lui a sèchement répondu cette nuit par ce tweet, Theresa May, ne te focalise pas sur moi, focalise-toi sur le terrorisme islamique radical, destructeur de l'intérieur du Royaume-Uni. Tout va bien pour nous. Antoine Maret, bonjour.
Bonjour.
Alors, peut-être une question d'abord, d'où viennent ces vidéos que Trump a retweetées? Comment est-ce qu'elles parviennent sur son téléphone?
Alors, ces vidéos, vous l'avez dit, sont des retweets d'une leader de l'extrême droite britannique, une certaine Jeida Franson, qui est députée d'un petit parti chrétien conservateur, anti-islam, anti-immigration. Sur les trois vidéos retweetées, une est particulièrement violente. On y voit un homme précipité du haut d'une petite tour, puis battu. Cela rappelle la diffusion par Marine Le Pen et Gilbert Collard sur leur compte Twitter d'images très choquantes de Daesh. Cette fascination de l'extrême droite pour la violence, la transgression, du moins quand cette transgression sert ses idées, celle d'un choc des civilisations entre le monde occidental et le monde musulman. Les deux autres vidéos retweetées par Donald Trump montrent un homme présenté comme musulman s'en prendre à une statue de la Vierge Marie et un adolescent décrit comme migrant donner des coups de poing à un garçon blond en béquille présenté comme allemand. Impossible de savoir si ces vidéos sont authentiques, ni si les légendes qui les accompagnent sont exactes, mais cela ne semble pas réfréner les tweets de Donald Trump qui ont fait même une méthode de communication, au prix parfois de sueur froide pour son entourage. La porte-parole de la Maison-Blanche a ainsi tenté de justifier ses triples retweets hasardeux par une déclaration funambulesque. Que ce soit ou non de vraies vidéos, la menace est réelle et c'est ce dont parle le président. Cela revient à prétendre que l'on peut diffuser de fausses informations si la cause est juste. Reste à savoir si le président américain sort grandi aux yeux de l'opinion publique américaine quand il prend de telles libertés avec la réalité. Sauf que la logique de Donald Trump est celle d'un président populiste qui souhaite entretenir via Twitter un lien direct avec son peuple. Donald Trump est donc devenu le président qui tweete et retweete plus vite que son ombre pour court-circuiter les médias traditionnels.
Antoine Maret, merci bien. Après le nouveau tir de missile nord-coréen, les États-Unis appellent tous les pays à couper leurs relations diplomatiques et commerciales avec Pyongyang. Washington menace de détruire complètement le régime nord-coréen en cas de guerre. La Maison-Blanche demande notamment à la Chine de cesser ses livraisons de pétrole pour intensifier la pression sur le pays. Mais c'est un embargo auquel Pékin se refuse pour l'instant. La Russie rejette également l'appel des États-Unis à couper les liens commerciaux et diplomatiques avec la Corée du Nord. Midi 49, on revient vers notre invité, donc Patrick Stefanini, ancien directeur de campagne de François Fillon, auteur de La déflagration chez Robert Laffont. Vous pointez, monsieur Stefanini, son goût pour le luxe de François Fillon. Vous rapportez ce conseil qui vous avait été livré par Bertrand Landrieux, qui était le premier mentor de Fillon. Sache une chose, François Fillon est un hédoniste. Hédoniste, est-ce que c'est, selon vous, l'une des faiblesses qui ont fait que sa campagne à un moment donné, à capoter?
En tout cas, c'est, je crois, un des aspects de sa personnalité. Bon, l'échec à la présidentielle vient d'abord des affaires qui ont été le facteur déclenchant, la cause immédiate, diraient les historiens. Mais la défaite de la droite à l'élection présidentielle vient de plus loin. Et j'essaye, dans mon livre, à la fois de décrire ce qui s'est passé, de faire des portraits des principaux acteurs, et notamment François Fillon, bien sûr, mais aussi Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Mais j'essaye aussi de mettre en lumière le fait que la défaite de la droite vient de plus loin. La droite a laissé filer le centre, elle a perdu le centre, et le ralliement de François Bayrou à Emmanuel Macron a été absolument décisif dans cette campagne.
La faute à qui ?
La faute au fait qu'une partie de la droite avait choisi de diaboliser François Bayrou. Et puis ensuite, la faute à l'affaire, aux affaires, parce que François Bayrou était en négociation avec Gérard Larcher pour le compte de François Fillon sur les investitures aux législatives. Donc, un accord aurait été possible avec François Bayrou. À partir du moment où le canard enchaîné a fait les révélations que chacun connaît, François Bayrou a considéré que voilà, ça n'était plus son intérêt de soutenir François Fillon. Et encore une fois, la droite a perdu cette élection parce que pour la première fois, une personnalité éminente du centre a fait le choix de soutenir un autre candidat que le candidat de droite. Et puis, il y a une deuxième difficulté sur laquelle j'insiste dans mon livre. À partir de la crise économique de 2007-2008, l'électorat populaire qui avait voté pour Jacques Chirac en 1995 ou qui avait voté pour Nicolas Sarkozy en 2007, cet électorat s'est séparé de la droite. Une partie est allée vers le Front National, une autre partie sans doute vers la France Insoumise. En tout cas, la droite l'a perdue. Et comme nous n'avons pas fait l'inventaire de la défaite de 2012, nous n'avons pas prêté suffisamment attention à ce phénomène.
Ludovic Piétonnet.
Patrick Stefanini, beaucoup de responsables à droite disent que la droite est perdue pour longtemps. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Après cette défaite de 2012 et de 2017, certains disent 10 ans encore.
Non, elle est dans une situation difficile, sans doute plus difficile qu'à l'occasion de ses précédentes défaites, 88 ou 97. Pour une raison simple, c'est que ses électeurs, actuellement, soutiennent, au moins intellectuellement. On verra à l'occasion des élections européennes si ce soutien est un vrai soutien politique, mais une bonne partie de ces électeurs adhèrent à la politique du président de la République. Ça, c'est la première fois que ça arrive à la droite. En 1981, quand François Mitterrand a été élu, l'électorat de droite était déçu, mais il n'était pas du tout pro-Mitterrand.
Et ça, c'est vous êtes victime d'une OPA, en quelque sorte, sur vos idées.
Non, mais c'est lié à ce que je disais précédemment. Nous avons laissé s'installer au centre de l'échiquier politique, je dis bien au centre, un personnage nouveau, qui est l'actuel président de la République, qui a obtenu le soutien de François Bayrou. Et comme il est au centre, ben, il fait une politique qui n'est pas celle des socialistes, qui à bien des égards d'ailleurs, notamment sur le front économique, est plutôt une politique d'inspiration libérale, pas si éloignée que cela de celle qu'avait prônée François Fillon. Oui. Il y a des différences, hein, ne me faites pas dire que c'est la
sur
même
la
chose.
Sur la suppression des fonctionnaires, par exemple, mais que François Fillon évoquait 500 000 pendant la campagne.
Ça va pas tout à fait aussi loin que François Fillon.
Sur la baisse de la dépense publique, il y a une différence importante. Sur l'approche en termes de compétitivité, il y en a aussi. Mais pour le reste, sur l'idée qu'il faut libérer les acteurs économiques, leur laisser plus de capacité d'initiative, sur la suppression au moins partielle de l'ISF, il y a beaucoup de points de convergence.
Comment on s'en sort, Monsieur Stefanini, puisque vous nous dites, Monsieur Macron, finalement, représente à peu près nos idées, grosso modo.
Je me garderai bien de donner des conseils. Je ne suis pas placé pour le faire. La droite reste ma famille politique. Et je crois qu'il faut qu'on travaille dans deux directions. La première, c'est il faut qu'on retrouve l'esprit de compagnonnage. Parce que les anathèmes et les procès d'intention nous ont fait beaucoup de mal. Mon livre montre que les relations entre François Fillon, Nicolas Sarkozy et Alain Juppé n'étaient pas des relations à ce point harmonieuses qu'ils aient pu se retrouver facilement au lendemain de la primaire. Donc il y a un premier effort pour la droite, c'est d'abord d'essayer de retrouver cet esprit du compagnonnage qui était l'esprit du gaullisme. Et deuxièmement, il faut travailler. Je veux dire, le président de la République a été élu il y a 6 ou 7 mois. Les prochaines élections présidentielles, c'est dans plus de 4 ans. La droite a largement l'occasion de s'emparer d'un certain nombre de sujets. J'en cite d'ailleurs quelques-uns à la fin de mon livre, où je m'intéresse davantage aux questions programmatiques. Sur la question des libertés locales, sur la question au fond de la décentralisation, le rôle des collectivités locales en face de l'État, sur la question de la compétitivité de l'économie française, sur la question de l'islam, Et enfin, sur la question européenne, il faut que la droite réussisse, dans les semaines et dans les mois qui viennent, à travailler, à dégager des idées nouvelles. Et c'est en travaillant qu'elle réussira à s'opposer efficacement au président
de
la
République. Vous n'avez pas parlé des classes populaires dont vous disiez qu'elles manquaient au programme de
France. Oui, bien sûr. Mais je le dis dans la conclusion de mon livre. Il nous faut inventer un message nouveau. Mais je dirais que le président de la République, il a un peu le même problème. Je ne suis pas sûr qu'il ait beaucoup d'électorat populaire derrière lui.
Ce que vous dites là, ça ressemble d'assez près au programme de Laurent Wauquiez. Pourtant, bon... Vous le portez peut-être pas dans votre cœur, je sais pas, mais,
non, mais moi,
dans 10 jours c'est lui le président des Républicains.
Je ne me livrerai à aucun procès d'intention. Il y a des nuances au sein de la droite, au sein de ceux qui ont choisi de rester à droite et de ne pas rallier le président de la République. Il y a des nuances, il y a des personnalités différentes. Valérie Pécresse n'a pas la même personnalité que Laurent Wauquiez et probablement pas tout à fait la même ligne politique, on va le dire comme ça. Mmh. Mais je pense que la droite doit s'enrichir de ces différences. Ça ne sera pas facile, mais nous avons vu ce qui se passe quand elle renonce à s'enrichir de ses différences.
Voilà, et garder l'esprit du compagnonnage, on l'a compris, pour éviter d'autres déflagrations. C'est le titre de votre livre publié chez Robert Laffont. Merci beaucoup Patrick Stefanini d'avoir accepté d'être dans ce studio pour en parler. Un temps généralement nuageux, quelques averses sous forme de neige dans l'Est, des températures de 1 à 14 degrés, édition réalisée avec Yacine Bouzard. Le prochain journal est à 18h avec Aurélie Kiffer.